Vous écoutez RTL.
RTL.
De la mode. Tel est son nom de code.
Jusqu'à 22h.
Chanel, Cacharel, Van Cleef & Arpels.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Charlie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
De la mode. Tel est son nom de code.
Est-ce que notre invité est victime de la mode? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot victime? On va lui demander. Pendant 40 ans, elle a côtoyé le luxe, l'élégance à la française. Elle avait travaillé avec Pierre Balmain, Lagerfeld, chez Chanel, Christian Lacroix. Elle a côtoyé les plus grandes stars et a même servi de doublure cabine à Brigitte Bardot. La classe. Bonsoir Martine Cartegéni.
Bonsoir Sidonie.
Soyez la bienvenue dans
Mais
la curiosité.
Merci, moi je suis très contente de faire ma première radio dans la première radio de France.
Oh génial, bah, et dans la curiosité.
Très heureux de vous accueillir.
Oui, c'est vrai.
On découvre, on va découvrir avec vous les coulisses de la haute couture. On est vraiment curieux de découvrir cet univers. Mais alors, comment devient-on doublure cabine de Brigitte Bardot?
Doublure, en fait, je n'étais pas doublure, je n'étais pas doublure cabine. Les mannequins dans une maison de couture sont là pour faire la pose, pour faire les essayages, pour faire l'évolution des toiles et des tissus. Mais il se trouvait que moi, j'avais les mêmes mensurations. Mais Bardot, par exemple, j'avais, parce que j'ai un peu, mais elle aussi. Il suffit d'avoir le même dessus de poitrine, milieu de poitrine, dessous de poitrine, taille, la hauteur de bras, le coude, vous voyez.
Oh bah, ça fait beaucoup
non,
de poids,
la seule chose qu'elle
commun,
avait de
quand même.
Beaucoup plus jolie que moi, c'était les jambes. Pas les cuisses. Mes cuisses, elles étaient bien. Mais elle avait les jambes beaucoup plus fines que moi. Mais si vous voulez, quand on essaye un vêtement, ça se voit pas. Mmh. C'est juste, bon, elle avait une démarche formidable. Non. Et pour Boulevard du Rhum, par exemple, le film d'Enrico, les vêtements étaient faits sur mesure, puisque ça se passait dans les années 25-30. Donc, il fallait des essayages. Donc, mais c'était pas fait dans la maison de couture chez Réal, donc il fallait quelqu'un et on n'allait pas payer un mannequin à la production. Donc et moi ça m'amusait follement.
Ah j'avais une question bête. Pourquoi Brigitte Bardot elle essayait pas ses vêtements tout simplement puisque c'est elle qui valait pas.
Parce que les essayages, vous savez, il faut d'abord essayer la toile puis après la demi-toile, il faut faire 4 ou 5 essayages pour une robe sur mesure. Donc elle avait pas le temps, ça la barbait quoi.
Mais vous la connaissiez avant d'avoir fait ça, vous l'avez rencontrée
Je l'avais rencontrée chez Réal.
Réal, c'est
mais
quoi Réal?
Chez Réal, c'est une maison de couture.
C'était
une maison
rien,
de couture qui
part de zéro.
Pas...
Non, mais moi non plus, je la découvre parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui, Martine. Cette
vous avez forcément vu des photos de Sylvie Vartan en robe de mariée.
Oui.
Oui, ah bah oui.
Avec la capuche.
D'accord.
Donc ça, c'est dans l'histoire de tout le monde. On la revoit. Et ben, c'est Réal.
D'accord. Très
Sylvie
bien.
Sylvie Vartan avec ses robes taille haute en mousseline qui chante à l'Olympia à l'époque, c'est Réal. France Gall à l'époque, c'est Réal. Marlène Jobert. Mais il y en a tellement. Je pouvais même pas raconter à Guillaume tout parce que.
Alors, vous parlez de Guillaume Évin qui a écrit ce livre avec vous et qui est dans ce studio et qu'on connaît bien.
Mais
qui
Guillaume, c'est grâce à Guillaume que ce livre existe.
Les coulisses de la haute couture, c'est aux éditions Hugo Doc. Alors, Réal.
Attendez, on n'a pas répondu à la question. Brigitte Bardot, c'était quoi du coup votre relation avec elle, vous êtes devenue copine d'une certaine façon?
Elle est devenue amie.
C'est sympa.
Maintenant,
ça.
Non, maintenant, je ne l'ai pas revue. Bon. Mais parce que j'ai revu un reportage hier. Il y a des moments, elle était mal dans la vie. Elle se coupait du monde. Donc, moi, j'ai très vite compris que j'étais très copine avec elle. Mais comment vous dire qu'à un moment donné, ces gens, il faut les laisser tranquilles. Ces gens, si on les aime, il faut les laisser tranquilles. Et quand elle a déménagé de Paul Doumer à Boulevard Lannes, elle a passé une période noire entre les fiancés, les pas fiancés, les suicides, voyez, je veux dire, bon, sa vie difficile, mais parce qu'elle avait une vie réellement difficile, vous savez, j'ai jamais vu ça, moi, je n'ai même encore maintenant, je ne veux jamais vu, elle montait l'escalier de Chéral, c'est maintenant c'est Wayad Zaro, il y avait un attroupement, mais de gens, quelquefois même hostiles. Parce qu'elle représentait tellement quelque chose de fort. Moi, hier soir, je la revoyais à l'Élysée. Quand vous voyez la tête de Madame de Gaulle, la stature de Madame de Gaulle, l'habillement de Madame de Gaulle, et que vous voyez Bardot, vous comprenez bien qu'elle est dans un monde différent.
Bien sûr.
On va raconter votre histoire aussi à vous, Martine Cartegéni. Réal, c'est votre première expérience parisienne. En 1968, vous arrivez d'Annemasse, en Savoie.
Oui.
Mais Vous aviez de l'expérience justement déjà en mode, parce que la mode ne se faisait pas qu'à Paris, elle se
c'était
faisait déjà dans
vraiment
votre
la
boutique,
mode.
Dans votre boutique à vous.
C'était pas vraiment la mode, mais c'était la couture. C'est parce que très jeune, J'avais 14 ans, j'étais déjà formée, j'étais déjà grande et j'avais pas envie de mettre les jupes plissées et les blazers et les petits chemisiers. Il y avait pas les prêt-à-porter des couturiers à l'époque, il y avait pas Zara, il y avait pas tout ça. Il y avait une boutique dans la ville, on s'habillait pour la Toussaint, pour Pâques, on se changeait, c'est tout. Mais non, mais c'est vrai. Mm-hmm. On a l'impression que c'est un siècle dernier, non. Mm-hmm. Et moi, j'avais envie de mettre des trucs justement un peu à la Bardot, sa robe de mariée, les robes froncées, les tailles hautes.
C'est ce que vous proposiez à... Pardon, c'est ce
alors
que
j'ai appris à l'école ménagère, ouais. Parce que le seul moyen, ma mère voulait pas me... on habitait la province, Annemasse c'est la frontière suisse, mmh. On habitait la province et le seul moyen c'est d'aller à l'école ménagère où j'ai appris la couture. Et alors là je me faisais mes premières jupes droites avec le pli d'or. Le pli d'or, ça va peut-être parler à certains auditeurs. Mmh. C'est pas un pli justement, ça imite un pli, c'est une fente dans laquelle, derrière, sur la doublure, il y a un carré de tissu qui cache les jambes. Parce qu'à l'époque, on montrait pas les jambes comme maintenant. Mmh. Pourquoi? Attendez, on était... Et le pli Dior, ça permettait l'aisance de la marche, tout en n'ayant pas cette épaisseur sous les fesses d'un gros pli. C'était le pli Dior. Alors, je me faisais ça, je me faisais des tailleurs à la Chanel. Mmh.
Et c'est pour voilà. Ça que vous avez créé votre... Vous avez ouvert votre boutique.
On a ouvert la boutique avec mon mari.
Création à vous, Martine Cartagini?
Ça s'appelait Martine, parce qu'à l'époque, il y avait une boutique à Paris très très connue, qui s'appelait Marie Martine. Il n'y avait pas le prêt-à-porter des couturiers, vous comprenez, le prêt-à-porter des couturiers, il n'y avait pas les créateurs, il n'y avait pas Montana, il n'y avait pas Mugler, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le palais du vêtement pour vous les hommes, il y avait des choses très tristes, vous voyez, pas du tout gay.
Et dans cette boutique, comment ça marchait? Vous proposiez à vos clients de leur créer un look quoi, à la Bardot, à la Sylvie
non,
Vartan?
Non, surtout pas.
Non.
Alors ça, j'ai eu un sens très vite, c'est à leur convenance.
Oui.
C'est surtout leur créer. C'est ce que fait très bien Christina Cordula, par exemple, maintenant. C'est
dans
de créer.
Dans son émission sur M6.
Oui, ouais. Parce que elle ne les habille pas à la mode, elle les habille en fonction du H, mes chéris, t'es en H, t'es en A. Elle les habille selon leur modèle, elle les habille selon leur corps et selon leur style. Et habiller une femme à la mode, c'est pire que tout, quoi.
Et vous, dans votre créativité, vous vous amusiez à quoi? Vous disiez, je faisais le pli Dior. Donc l'objectif, c'était quoi? De prendre des modèles des plus grands créateurs et d'y apporter votre touche ou de les copier?
Non, je pouvais pas prendre le créateur. Parce que les couturiers faisaient déjà, à l'époque, Pierre Balmain, Christian Dior, Jacques Fatte, toutes ces grandes maisons, vendaient, c'est-à-dire qu'une couturière de province, elle avait le droit de venir acheter la toile du modèle, et après elle pouvait leur multiplier, elle vendait du Balmain. Mais enfin, elle avait le droit d'utiliser, c'était pas vraiment fait comme dans les ateliers, ou alors elle avait le droit moins cher, elle achetait le patron. Parce qu'entre un patron papier, et une toile qui est comme un prototype, qui est comme un truc en trois dimensions, il y a une différence. La toile, vous avez tout de suite le volume et l'allure.
Comment vous êtes passé, Martine Cartagini, de votre boutique, Martine, en Savoie, à Paris, à Pierre Balmain?
Alors ça, c'est le pur hasard. Il paraît que j'avais donc cette boutique, je vendais du Réal, prêt à porter.
On sait ce que c'est maintenant.
Voilà. Et je divorce, enfin le couple bat de l'aile et je divorce. Et du coup, les propriétaires me disent, écoute, t'es une bonne acheteuse, mais t'es encore une meilleure vendeuse. Et donc, j'ai tout de suite trouvé un boulot. C'est formidable, je divorce et je trouve un boulot. Donc j'arrive en mai 68. Bon, naturellement, je repars vite parce qu'il y a les événements, mais enfin, je fais quand même la révolution de mai 68. Je défile.
Vous étiez habillé comment?
Il y a eu plusieurs défilés en mai 68, mais bon, défile. Parce que j'étais un peu... Il y avait une poussée dans l'air quand même, vous savez, il y avait les jeunes. Si mai 68 est arrivé, c'est qu'il y avait... Même nous en province, on sentait ça.
Est-ce qu'il y avait un look mai 68?
Non, parce qu'on défilait... Non, alors ça, je saurais pas vous dire.
Moi, je vous pose la question comme ça. Alors, vous arrivez chez Pierre Balmain, ça c'est en quelle année?
Alors, c'est après...
Ouais.
Ah, chez Pierre Balmain, je tombe dans l'austérité, là, le plus sérieux. Je tombe dans la grande maison de couture.
Alors, racontez-nous.
Alors là, c'était.
Déjà, quel est votre rôle dans cette maison de couture?
Alors là, je suis directrice de la boutique. C'est-à-dire que la boutique est ainsi constituée, qu'il y a une entrée, toutes les clientes, même de haute couture, passent par la boutique et prennent le grand escalier. Donc, on les voit toutes arriver. On les voit toutes redescendre, évidemment. Et en tant que directrice de la boutique, on avait le droit une fois par semaine, quand Monsieur Balmain faisait les répétitions bien ordonnées avec la chef de cabine dans le grand salon, faisait ça, tout ça, comme c'était presque une messe. Ce que j'ai pas connu avec Lagerfeld et après avec Christian Lacroix.
Et ben cette grand-messe, on va continuer de la raconter dans La Curiosité, cette grand-messe avec Pierre Balmain, tout de suite.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Au soleil, complètement nu, au soleil.
Pendant 40 ans, notre invitée, non, n'a pas été nue au soleil, mais elle a fait la doublure, notamment cabine de Brigitte
parfois,
Bardot.
Parfois,
bien sûr, pas tout le temps.
Ah Martine, non, mais par exemple, dans L'Ours et la Poupée, oui. Michel Deville, la petite jupe jaune, elle était à
c'est
moi.
Vous Vous l'avez prêtée à Brigitte Bardot?
Parce qu'elle voulait la même. Et il n'y avait plus de tissu, on ne pouvait plus la faire. Et dans le scénario, il fallait qu'elle soit déchirable. Donc, d'une jupe plissée, on en a fait une jupe portefeuille. Mais donc, oui, voilà. C'est arrivé pour... Ah non, et puis j'ai fait aussi les essayages de... Ça, vous devez le voir dans les photos. Ça reste... Elle a été... avec Belmondo pour le gala de l'Union des artistes. Vous savez, il y avait chaque année un gala très important. Elle a été Monsieur Loyal, mais elle était tout en blanc en queue de pied, elle était sublissime.
Magnifique. Je vois très bien ces photos.
Et c'est moi qui ai fait les essayages.
Martine Cartegini, pardon. Avec vous, on découvre les coulisses de la haute couture. Vous nous aviez emmené il y a quelques instants chez Pierre Balmain, chez qui vous avez officié pendant 5 ans. C'était un personnage à part, assez distant,
non,
assez froid.
C'était un personnage sérieux. Une maison de couture, c'était pas la cour de récréation. On s'amusait beaucoup pour les Sainte-Catherine, pour dans les ateliers, mais c'était les filles, les premières mains qualifiées, parce que on dit petites mains dans notre métier, dans la couture, mais en fait, ce sont des premières mains qualifiées, c'est-à-dire c'est des gens qui ont déjà atteint des niveaux et qui ont de l'or entre les mains. Mais Pierre Balmain, c'était le monsieur avec sa cape. Moi, un jour...
Moi, je ne le connais pas du tout. Vous pouvez nous le décrire? Pardon, je vous interromps. C'est quel âge a-t-il? À quoi il ressemble, Pierre Balmain?
Alors, j'en sais rien. Il ressemble, il est un peu rond. Il est un peu fort. Il est savoyard. Quand j'arrive, je ne sais pas quel âge il a. Il fait déjà un peu vieux, je trouve.
On est dans les années 70.
Mais il avait un parfum qui s'appelait Jolie Madame. Ça allait avec, hein.
Quel genre de vêtements?
Vous n'avez pas un parfum Jolie Madame sans que ça corresponde à Jolie Madame. C'était la femme plutôt de 40-50 ans, mais qui était chic, la bourgeoise chic, quoi.
Et donc Pierre Balmain, il était plutôt à l'avant-scène de la mode?
Il a créé à 6 mois d'intervalle avec Christian Dior. Parce que ils ont travaillé. Pierre Balmain travaillait chez Lucien Lelong. Et Dior travaillait, je ne sais plus chez qui, tiens, j'ai oublié.
Ah non, c'est pas qui c'est, Lucien Lelong.
Ils ont créé ça dans les années 46-47, tout de suite après la guerre.
Mais Pierre Balmain, Martine, je vous demandais, c'était un homme moderne, il faisait de la haute couture moderne dans les années 70. Comment il était répertorié?
Alors écoutez, par rapport à ce que j'ai connu après, je dirais que non quand même, faut être
Jolie
sincère.
Madame.
Mais, le parfum s'appelait Jolie Madame et Ivoire. Vous voyez, c'est pas... Moi, pendant que j'y étais, ils avaient créé le parfum Ivoire. C'est pas un truc qui emmène dans des sphères...
Martine Cartegini, vous publiez les coulisses de la haute couture chez Hugo Doc. Et dans ce livre, vous racontez que c'est chez Balmain que vous croisez vos premières têtes couronnées. Comment ça se passe, ça?
Ah, je ne sais pas pourquoi, mais Monsieur Balmain habillait toutes les têtes couronnées. D'abord, la reine du Danemark, parce que vous savez qu'elle a épousé un Français. Et pourquoi la reine du Danemark? Parce que... son bras droit, Erik Mortensen, était danois. Donc à chaque fois qu'elle partait dans le Lot ou la Garonne, ou je sais plus, enfin par là, dans le sud-ouest, elle passait. Donc nous, on mettait des fleurs rouges et blanches, la reine Fabiola de Belgique. Je ne sais pas pourquoi il habillait les têtes, parce que c'était cérémonie, je dirais. Moi, vous voyez, un style comme ça, mariage. Dès qu'il y avait un mariage dans une famille royale, tout le monde arrivait chez Balmain. Oui.
Et est-ce qu'il y avait un cérémonial, justement,
non.
Une étiquette, puisqu'on parle de tête couronnée,
le minimum,
à respecter?
Oui, le minimum. On apprenait, une fois qu'on a été présenté à Sa Majesté, on n'est plus obligé de faire la petite révérence. Donc on peut serrer la main. Oui, il y a un minimum de protocole qu'on nous apprend, et moi je savais rien, j'ai tout appris. Mais Fabiola, par exemple, de Belgique, était formidable. Parce qu'on oublie un truc, c'est qu'elle était espagnole. Donc elle était bavarde, elle venait bavarder avec les vendeuses du fond. Elle était sympathique comme tout.
Alors ça, c'était l'ambiance vitrine, j'ai envie de dire l'ambiance boutique chez Pierre Balmain. Mais vous racontez aussi dans votre livre que dans les coulisses, dans l'atelier, c'est difficile, on en perd.
Alors ça, c'est Rosine qui raconte ça, oui. C'était.
C'est qui Rosine?
Ça dépend du chef d'atelier. C'était d'abord les. Vous me dites dans votre texte que elle souffrait. Non, c'est pas SOS tous les jours, mais les ateliers de couture étaient dans la maison de couture. Donc souvent sous les étages, c'est pas les premiers étages, les deuxièmes étages, c'est sous les toits. Donc c'est là qu'il fait chaud, c'est là que, vous voyez, je veux dire, donc... Et puis parce que, comme tous les métiers de la mode, parce que vous savez, j'ai adoré la mode, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est les métiers de la mode, les parureliers, les
alors, les brodeurs,
les... Les plisseurs, tous ces gens-là qui ont un savoir-faire, c'est tout ça que j'ai adoré.
Martine, un plisseur, par exemple, c'est pour faire ce fameux pli de jupe dont vous parliez, le pli de jupe Dior?
Ah non, le pli Dior, c'est parce que c'était un faux pli.
Ah.
Mais le plisseur, j'en ai un chez moi.
C'est quoi?
C'est en fait deux moules en papier qu'on met, on met le tissu dedans et on passe à la grosse chaleur et ça plisse permanent. Non, c'est un métier, et j'en ai un chez moi que Guillaume a vu, avec des motifs, on plissait avec des motifs, vous voyez, je veux dire, c'est pas... Maintenant, ça se fait plus. Je pense que ça reviendrait très cher. Vous... On peut se faire quand haute couture.
Ouais. Vous nous dites que les conditions de travail étaient parfois dures, difficiles, et la hiérarchie...
Bah, c'est par très... exemple, moi,
c'est...
je montais...
Pardon, je vais aller au bout de ma question. C'est très hiérarchisé,
ouais.
une maison de couture.
Ah, oui.
C'est quoi? C'est en bas, il y a la petite main débutante, et puis...
Première main débutante.
Oui.
Non, il y a l'apprenti. Apprenti d'abord.
Apprenti, oui.
Apprenti, première main débutante, seconde main débutante, première main. Oui, c'est au
jusqu'au chef d'atelier, c'est quoi le.
Chef d'atelier,
le grade le plus haut.
Chef d'atelier, il a deux rôles. Un, il est dirigeant d'atelier, il s'occupe des livraisons, parce qu'après, faut produire, faut faire. Mais il fait les toiles pour le créateur. C'est-à-dire que d'après un dessin fourni par le créateur, il interprète en volume comme une maquette. Le vêtement en toile. Alors en toile dure, en toile molle, en toile plus ou moins raide. Voilà.
Et ça, c'est assez magique.
Pour donner une... Ouais, c'est bien. Ouais, ouais c'est beau.
Ouais.
Un beau métier.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Martine Gardini...
Si vous avez des auditeurs ou des auditrices...
On en a.
Ah ben, non, mais
on
qui
a plein.
Ont travaillé dans la...
On en a plein.
Mais qui ont travaillé dans la... Je les salue parce que je les adore.
Et vous savez quoi? S'il y en a, ils peuvent nous appeler au 3210 ou réagir sur RTL.fr ou même sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, la curiosité RTL pour communiquer comme ça leur passion de la mode et leur expérience.
On était chez Pierre Balmain, dans un instant Martine Cartellini.
Oui,
vous
Pierre
nous emmènerez
Balmain.
Chez Christian Lacroix et puis aussi chez Chanel à la rencontre de Lagerfeld, du beau monde qu'on va rencontrer dans quelques instants.
Ce sera dans quelques instants,
c'est
juste après.
Les informations. Juste après.
Vous écoutez RTL.
Si vous arrive quelque chose, c'est votre héritière, Choupette?
Oui. Je n'ai plus qu'elle a fait l'argent, je ne le prends pas. C'est mis exprès pour elle. Choupette est une fille riche.
Sur la plage abandonnée.
Jusqu'à 22h.
Non, pas de maquillage chez Balmain. Moi, je savais que ça marcherait, j'avais vraiment peur de la réaction des filles.
La curiosité est un vilain défaut.
Sacha Walkoff, qui perpétue pour la maison l'esprit de Christian Lacroix à travers une collection de textiles et de papier peint.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Au soleil.
Lagerfeld, Balmain, Lacroix, oui c'est vrai que ça fait rêver. Ça fait
Fait trop froid.
Mais non, mais ça c'était Brigitte Bardot. On a raconté tout à l'heure pourquoi notre invitée Martine Cartellini a une histoire avec Brigitte Bardot. Martine Cartellini qui nous guide ce soir dans les coulisses de la haute couture. On a entendu là parler de Karl Lagerfeld, de Pierre Balmain, Christian Lacroix. Vous avez travaillé chez Christian Lacroix. C'était quoi? C'était juste après Pierre
J'ai
Balmain.
Travaillé après. Ouais. Chanel.
Ouais. Alors après Chanel,
j'ai quitté,
d'accord.
Ben parce que Lacroix arrivait, il a monté la maison avec Bernard Arnault en 87. D'un coup j'ai un trou. C'est ça. Et c'était une explosion. Une explosion de couleurs, de talents, d'innovation, puis parce qu'il avait son monde à lui, il avait son univers à lui, il ressemblait à personne d'autre. Évidemment, il ne faisait pas du Givenchy, il ne faisait pas du Chanel, il avait son univers à lui, l'Arlésien, l'homme du Sud. Donc, je sortais de chez Chanel, en fait, je suis passé un an au patrimoine.
Ça veut dire quoi?
Catherine Ormen. Parce que Chanel s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait... On fait Lagerfeld, il tapait toujours des ongles comme ça, et il citait toujours Goethe. On fait un meilleur avenir avec les éléments élargis du passé. Et ça, c'est vrai dans tout.
C'était le slogan de Karl Lagerfeld.
On fait... Karl Lagerfeld.
Répétez la phrase.
On fait un meilleur avenir avec les éléments élargis du passé. C'est pas une très jolie phrase.
Les éléments élargis.
C'est-à-dire que, mais les Beatles s'inspirent de Mozart, Mozart s'inspire de, effectivement, avec les éléments élargis du passé, d'accord, on fait un meilleur avenir.
Ça donne quoi, ça, en termes de mode?
Pour qu'il y ait des éléments élargis du passé, faut-il qu'il y ait un passé?
Donc, il fallait s'appuyer sur les grands anciens,
vite,
les couturiers d'avant.
Il fallait faire une exposition d'abord au musée de la mode à Marseille, et puis après au Bukamura à Tokyo. Et moi, ils m'ont sorti du studio, parce que c'est vrai que chez Chanel, j'adorais aller dans les ateliers. Moi, chez Balmain, parce qu'on n'avait pas le droit, enfin, c'était le lieu sacré. Mais chez Chanel, je montais. Parce que chez Chanel, je m'occupais de la coordination haute couture, mais je m'occupais aussi, toujours un petit côté artistique quand même, des broderies, des ceintures et des boutons.
Là, on est en quelle année chez Chanel quand vous y travaillez, Martine?
Là, je rentre début 83. Et Karl est déjà là.
Il a quel âge, lui?
Il est arrivé pour la collection de haute couture, printemps été 83.
Et c'est déjà un...
Il rentre fin 82, quoi. À peu près. Je n'étais pas là.
Moi, j'aimerais bien que vous nous décriviez.
Mais parce que je l'avais connu avant.
Non, mais comment il travaille, c'est qui?
Je savais que ce personnage qui rentrait chez Chanel, il allait te soulever tout ça, ce panier de poussière et de, mais en même temps, panier de poussière, parce qu'elle s'endormait, un peu, mademoiselle. Mais n'empêche que elle avait créé tout. Elle a créé le matelassé, la ganse.
On parle de Coco Chanel, hein.
Coco Chanel, oui, mademoiselle. Elle a créé le matelassé, elle a créé le beige, la petite robe noire. Elle a inventé le jersey en 1914. Vous comprenez? Elle a déjà créé.
Les basiques, finalement. Et Lagerfeld, alors, il arrive et il fait quoi? Il dépoussière tout ça?
Il fait comme un grand compositeur. Il prend les 8 ou 9 notes et il fait des symphonies avec. Vous comprenez? C'est les mêmes notes de musique. C'est le matelassé, la ganse, le bouton, les 4 poches, le beige, le noir, le camélia. Et vous prenez tout ça et comme des notes de musique. Il y a 7 notes de musique. On fait des petites chansonnettes comme on fait des...
Donc, oui, voilà. À l'infini. Ouais.
Dans votre
Karl Lagerfeld, il est tellement fulgurant, tellement... fulgurant.
Il est génial, il a beaucoup d'idées, Karl Lagerfeld, vous qui l'avez côtoyé.
Il a une idée à la minute. Puis
on peut pas l'arrêter, on peut pas le freiner.
Non, il est dans l'air du temps, il est en avant, il entraîne tout le monde. C'est ça que j'ai aimé de travailler avec lui. C'est que, avec tout le monde, il allait chercher le meilleur en nous. Vous voyez, c'est formidable de travailler avec des gens qui vont chercher en vous le meilleur. C'est pas nous qui avons à donner le meilleur, évidemment qu'on donnait le meilleur. C'est eux qui viennent nous proposer, qui nous font des propositions pour. Et là, c'est jouissif, quoi. C'est formidable.
Dans votre livre, Martine Cartegini, Les coulisses de la haute couture, qui est publié chez Hugo Doc, vous décrivez un Karl Lagerfeld hyper travailleur, hyper bosseur.
Mais vous avez vu ce qu'il fait? Mais ça, il arrête pas. Vous avez vu ce qu'il fait? Il fait des photos, il a une collection de livres, il fait une librairie, il fait la collection de Fendi, il fait la collection Chanel. Chanel, maintenant, il y a 2 capsules, il y a deux, comment on appelle ça, croisières, il y a 2 haute couture, il y a 2 prêt-à-porter.
Quelles sont ses faiblesses à Karl Lagerfeld?
Mais parce qu'il a une rapide, il saisit les choses d'une façon extraordinaire, extraordinaire. La Croix, qui est un artiste aussi, un fulgurant aussi, créateur, mais plus lent. Je crois que c'est l'homme du Midi puis l'homme du Nord, je sais pas.
Et les faiblesses de Karl Lagerfeld, vous l'avez côtoyé, Martine Cartegini? Ses faiblesses?
Je voudrais faire plaisir à je sais pas qui, je suis incapable de vous en trouver une.
Il n'y en a pas une?
Peut-être quand il s'est fâché avec Inès, je ne sais pas pourquoi.
Inès de la Fressange?
Parce que j'ai pas aimé, parce que Inès était tellement géniale, tellement la parisienne, tellement jolie, tellement moderne.
C'était une mannequin de chez Chanel?
C'était la première fois que Karl, c'est une idée de Karl, c'est la première fois qu'un mannequin représentait une maison. Ça se faisait pas avant.
Donc Inès de la Fressange, qui d'ailleurs préface votre livre.
Et vous avez vu la gentille préface qu'elle m'a mise?
C'est ton effet très gentil.
Je vais écrire un mot. Oh.
Vous savez, Martine...
Il faut acheter le livre rien que pour la préface.
C'est une bonne idée. Martine Cartegini, vous faites réagir les auditeurs et les auditrices d'RTL. Et peut-être que vous allez reconnaître cette auditrice, Paulette, qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Elle dit « J'ai travaillé dans la Maison Réale et cela m'a permis d'habiller Brigitte Bardot à de nombreuses reprises. » Vous vous souvenez d'une Paulette?
Paulette, bien sûr. Alors là, je vais vous dire, ça me donne des frissons.
C'est vrai?
Ça me donne des frissons. Parce que c'était une ambiance chez Réal. Ah, vous me parliez de gens célèbres. Enfin, vous voyez, à l'époque, Dany Saval, qui était quand même une comédienne très, très, très en vogue, la femme de Michel Drucker. Vous voyez, je veux dire, à l'époque, tout le monde s'habillait chez Réal. C'était la jeune fille moderne, jolie, Sylvie Vartan, France Gall, vous voyez, Marlène Jobert, tout le monde s'habillait. Julie Christie. Quelquefois, on était obligé de planquer les uns les autres.
De planquer très quoi? Rigolo. De planquer quoi, pardon?
Pardon. Parce que vous dites. Je suis tellement passionné.
Mais
que
oui,
j'ai
mais
envie
du coup,
de...
moi, ça ouvre une porte. Ça, on était obligé de planquer quoi avec Julie Christie? J'ai pas compris.
Parce qu'à un moment donné, Bardot avait le même amant.
fallait planquer l'amant.
Je ne dirais pas lequel.
D'accord. Oh bah dommage.
Martine, c'est du vaudeville en fait.
Mais parce que dans les maisons de couture, alors que ça soit chez Balmain, chez Réal, on ne disait jamais rien. On devait se taire. Il y avait une discrétion totale.
C'était le secret professionnel, Martine. Dans un instant, vous allez nous donner votre regard sur les mannequins, la mode et les saisons de haute couture d'aujourd'hui. J'ai bien hâte.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir dans la curiosité, on accueille une femme élégante. C'est Martine Cartégénie, une fée qui a œuvré auprès des plus grands couturiers et qui nous compte sans langue de bois. Vous allez l'entendre si vous nous rejoignez maintenant sur RTL. Les coulisses de la haute couture. Vous avez travaillé chez Chanel avec Karl Lagerfeld. Vous dites de lui qu'il faisait régner la paix, l'harmonie et le talent. Et il a dit de vous que vous étiez une créatrice d'enthousiasme, c'est un très joli compliment. C'est même lui qui vous a recommandé auprès du réalisateur Yves Robert.
C'est-à-dire, c'est oui, parce que Yves Robert faisait ce film Le Jumeau, et Le Jumeau, c'est deux filles riches, c'est deux jumelles. Et très vite, il a voulu qu'elle soit habillée par Chanel. Bah, le côté gémellité, les quatre poches, les deux poches, etc. Chanel accepte, parce que le film le plaisait, c'était Yves Robert, le sujet plaisait, etc. Et très vite, il a dit, mais il me faut quelqu'un, lui, pouvait dessiner, mais il faut quelqu'un qui fasse le go-between, et la liaison, les essayages, choisir les tissus, reconvoquer tout le monde, enfin voilà. Donc, et il a dit, je pense à elle. Parce que moi, je le connaissais par Stéphane Audran. Je connaissais Karl avant de
la
rentrer
comédienne.
Avec...
Voilà. Ouais.
Et moi, j'ai accepté, parce que je quitte Balmain, parce que je commence un petit peu à m'ennuyer chez Balmain. Je trouve ça plus rigolo. Et j'ai failli être costumière. Mais un seul coup, il fait la première collection chez Chanel et il s'aperçoit que son équipe, c'est pas tout à fait comme il voudrait. Son équipe, elle est pas au carré, parce que c'est quand même... Ça avance, hein. Avec Karl, attention, tout le monde travaille. C'est pas... On rigole, on danse, etc. Mais on travaille. Mais...
Ça veut dire que Karl Lagerfeld
voilà,
vous rappelle,
donc,
c'est ça?
Du coup, à un moment donné, il a eu l'idée de me faire venir chez Chanel. Il s'est dit, ce qu'elle faisait à l'extérieur, elle va le faire à l'intérieur directement en travaillant avec moi.
Mais vous dites, j'aurais pu devenir costumière, donc devenir costumière de cinéma. C'est un petit regret,
alors,
ça, dans votre vie?
Non, parce qu'une vraie costumière, je n'avais pas la culture... Une vraie costumière, oui, pour habiller un film moderne de notre époque, oui, j'aurais vraiment pu faire, au contraire, même faire des choses sur mesure, etc. Mais ce que j'appelle une vraie costumière, moi, c'est quand on attaque le 18e, le 19e, le 20e, enfin, vous voyez, qu'on attaque les siècles et qu'on est juste. Pour moi, c'est ça, une vraie costumière. Donc ça, j'aurais pas eu la culture. J'en avais pas assez, j'aurais pu apprendre, mais à un moment donné, mais en revanche, oui, faire un film costumière, un film actuel, ça, oui.
Martine, vous racontez aussi dans votre livre que vous avez coécrit avec Guillaume Évin, les coulisses de la haute couture chez Hugo Doc, qu'il y avait un rituel chez Chanel, le rituel de la Sainte-Catherine.
Ah, c'est dans toutes les maisons de couture. C'est même étendu à beaucoup de maisons maintenant. C'est le 25 novembre. C'est sacré. Ce sont toutes les jeunes filles de 25 ans. Et maintenant, il y en a de plus en plus qui ne sont pas mariées.
On pourrait faire ça jusqu'à 35
ans. Parce qu'avant, à la limite, il y en avait moins, vous voyez.
Oui, oui.
Maintenant, les jeunes filles de 25 ans, pas mariées, il y en a. Et chez Chanel ou chez Lacroix, alors ça, c'était sacré.
Qu'est-ce qu'on faisait?
On se déguise. Ah, chez la Croix, on se déguisait tous les services, y compris la comptabilité, tout le monde savait se déguiser.
Mais
il y avait un thème. La Croix donnait chaque année un thème, l'hôpital, là en 2040, etc. Et chacun, alors chaque atelier, choisi dans ce thème, prenait une figure. Vous pouvez faire. Voilà, c'est là dans le livre, vous voyez en soubrette.
Mais c'est vrai, ça vous va très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore ça dans les maisons de couture?
Pardon ?
Est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore ça ? On fait
oui, bien sûr. Il y a même une journée de congé. Enfin, peut-être pas dans toutes les maisons de, cousins, de couture. Alors maintenant, j'ai abandonné la couture pour un amour formidable. Donc, j'ai abandonné, je ne sais plus, mais non, mais c'est sacré, la Sainte-Catherine, bien sûr. Et on coiffe, on leur fait un chapeau particulier, pour elles particulièrement. Et chez la Croix, on faisait même la fête tous ensemble. La fête, fête, avec orchestre, avec grand dîner, voilà. Chez Chanel, ça se passait dans les salons de haute couture ou à l'hôtel Meurice, vous voyez.
La classe. Dans votre livre, Martine Cartigini, vous racontez forcément ce qu'étaient ces deux périodes clés dans une saison, c'est-à-dire les défilés de haute couture. Aujourd'hui, on dit la Fashion Week, c'était au début du mois. C'est quoi l'effervescence ? C'est quoi ? C'est un compte à rebours, en fait ?
La Fashion Week, c'est relativement récent.
Oui.
Mais c'est une semaine, avant on appelait ça la semaine du prêt-à-porter. C'était beau, mais Fashion Week,
c'est bien aussi.
Joli.
Hein.
Mais maintenant, ça a changé. Il y a les blogueuses. Alors vous voyez toutes les blogueuses qui. Vous avez vu à la télé maintenant, on montre presque plus la mode, on montre presque plus les vêtements, on montre les blogueurs qui sont devant les défilés. Enfin, sur Canal, ils font ça, par exemple, très bien d'ailleurs.
Ils sont au premier rang.
Non, mais c'est vrai, on voit plus les gens avec des looks hallucinants, des cheveux jaunes, des. Mais c'est les blogueurs maintenant, avant ça n'existait pas tout ça.
Vous êtes allé au défilé des maisons Balmain, Lacroix, Chanel, dernièrement ?
Non, on m'invite plus. Je fais plus partie de la maison. Puis parce que Chanel a une telle notoriété maintenant, ouf, dans le monde entier, c'est un siège.
Le monde de la mode a beaucoup changé quand même, parce que vous devez en entendre parler, même si vous avez un peu quitté cet univers, Martine Cartigini. Ça a beaucoup changé, l'ambiance. C'est devenu un business beaucoup plus dur.
Non, je pense que chez Chanel c'est toujours la même chose. Oui, il faut dégager des bénéfices, c'est normal. Quelle est la maison qui va se monter sans dégager des bénéfices ? Puis c'est rigolo. Quand Karl Lagerfeld est arrivé, on avait la participation. La participation, en un an et demi de présence de Karl Lagerfeld, on touchait 3 mois de salaire. Et je veux dire, c'est-à-dire que les bénéfices étaient... Voilà. C'est formidable. C'est motivant, c'est... Voilà.
Tous ces très bons souvenirs et ces coulisses de haute couture sont à découvrir dans votre livre, Martine Cartigiani, que vous publiez avec Guillaume Évin chez Hugo Doc. Merci infiniment, merci à vous.
Mais c'est moi qui vous remercie, beaucoup. J'ai passé un excellent moment avec vous.
Mais nous aussi.
C'était un grand plaisir.
Et j'espère que les éditeurs se sont... J'espère qu'il y avait des petites mains partout et voilà.
Mais on les entend, oui, on a passé un très bon moment.
Je les aime. En tout cas, je les aime.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.